RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story, s'en passe de belle dans les coulisses des GG, je voulais dire. Qui est là aujourd'hui? Emmanuel Deville, chef d'entreprise, Joël Dagosseri, la coach de vie, et Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée. Si on revenait sur l'affaire du Groenland et la prestation de Donald Trump à Davos avec un président français qui a tenu à répondre au chef d'État américain.
Emmanuel, you know Emmanuel Macron.
C'est à moi que tu parles.
I love the French accent. Emmanuel.
C'est à moi que tu parles.
Emmanuel said to me, whatever you want, Donald, please, Donald.
Oh, c'est à moi que tu parles, c'est moi qui parle.
Je vais mettre 200% de taxes sur les vins et les champagnes, et il viendra.
Mais c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec.
Ça, c'était avant, bien évidemment. Depuis, Donald Trump, visiblement, a réussi à trouver un accord.
C'est vraiment un bon accord pour tout le monde, vraiment bien. Les gens sont très satisfaits. J'ai retiré les droits de douane parce qu'il me semble que nous ayons un bon concept d'accord.
Alors, on n'a pas le détail sur l'accord, mais visiblement, la rencontre entre Donald Trump et son ami, le patron de l'OTAN, Mark Rutte, a aidé à arrondir les angles.
Oui, et peut-être aussi le discours d'Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel Macron, cette semaine, a réussi deux choses. Tout d'abord, il a fait exploser le carnet de commandes du lunetier basé dans le Jura. Ces fameuses lunettes, l'image a fait le tour du monde. Même Donald Trump en a parlé hier dans son discours. Et c'est formidable pour cette entreprise. Donc, tant mieux, c'est une entreprise française, Cocorico, le Made in France, il faut le soutenir. Donc bravo Emmanuel Macron. Et puis peut-être effectivement Emmanuel Macron, face à quelqu'un qui joue beaucoup le rapport de force dans sa façon d'agir, peut-être qu'Emmanuel Macron a trouvé la bonne méthode. Alors pas pour faire plier Donald Trump, mais pour expliquer que on pouvait pas non plus s'essuyer les pieds sur l'Europe tous les jours et que c'était trop facile de venir en Suisse pour nous faire la leçon. Hein. C'est ce qu'il a fait hier Donald Trump avec des mots très durs contre l'Union européenne. On était vraiment les moins que rien. Donc Donald Trump recule, il faut le dire quand même. Puisqu'il n'y aura pas ces fameux droits de douane supplémentaires le 1er février, la France était concernée. Et puis, visiblement, il n'y aura pas d'intervention militaire au Groenland. Il aurait trouvé un accord avec l'OTAN. On connaît pas vraiment les contours de cet accord, donc ça reste à préciser. En tout cas, la pression est retombée. Est-ce qu'il faut dire chapeau Macron ?
Joël ?
Alors les États-Unis, c'est fascinant parce que eux, ils arrivent à faire un truc. Il faut les canoniser parce qu'ils font des miracles. Ils réussissent à nous rabibocher avec nos présidents. Ils l'ont fait avec Chirac, avec l'Irak, quand il a dit non à travers de Villepin à la guerre en Irak, à suivre les Américains et les Britanniques. On s'est senti fiers, on s'est dit « Attends, on ne va pas s'aligner comme ça ». Et là, ils ont réussi à me rabis, pas rabibocher, mais juste rabis, avec...
Rabbi Jacob.
C'est
pas encore bauché.
Voilà,
c'est que
pas
rabis.
Encore bauché, mais juste rabis avec Macron. Je peux vous dire que, pour moi, et je suis sûre qu'Emmanuel ne sera pas d'accord
attends,
avec...
Attends, attends.
Mais pour moi, en tout cas, les Français qui ne soutiennent pas le président là, dans cette initiative-là, juste sur ce point international de la politique, pour moi, désolé, c'était très trop pris au pays.
Ce ne sont pas les patriotes.
Non, ce n'est pas des patriotes. Parce que Trump, lui, son intérêt, c'est son combat, c'est la Chine. Tout le reste, on doit être vassalisé et affaibli. Et donc Emmanuel Macron, quelque part, moi je ne sais pas si ça va être suivi d'effet, parce que Trump il dit on a trouvé un accord, on va s'arrêter. Demain il va dire autre chose. Mais au moins là, il a donné un peu le là sur, il a dit stop en fait. ça suffit, stop. Et ça vient justement, moi je trouve que c'est pas mal parce que ça vient en réponse au truc sur lequel on rigole là, avant le sujet, quand il dit Emmanuel, il m'a supplié de pas mettre 200% sur ses médicaments ou je sais plus quoi. Et ben là, Emmanuel, il a montré que ouais, moi je vais arrêter de te supplier en fait. Et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est très bien. Et même si ça échoue à la fin parce qu'il a le Groenland, je trouve que c'est bien que la France dise écoute, on arrête là, on siffle la fin de la récré quoi. Stop.
Amen.
Emmanuel Duvillier.
Mais là, c'est. J'apprécie beaucoup Joël, mais je trouve que tout ça, c'est un peu du politiquement correct. Moi, je dis ras-le-bol du Trump bashing. Ah bah. Parce que Trump dit blanc, on le critique. Mais si Trump dit noir, on le critique aussi. On déforme ses propos. Il y a un matraquage avec tout un tas de faux experts, que je qualifierais parfois d'accidentés de la vie. Qui font des Français des moutons de panurge anti-américains, anti-Trump, alors que ce que dit Trump est tout à fait clair. Ces experts, il faut quand même le rappeler, ce sont les mêmes qui en 2016 diraient qu'ils n'avaient aucune chance d'être élu président américain. Ce sont les mêmes qui de 2020 à 2023 disaient il est au fond du trou, il va être en prison, il pourra même pas être candidat. Et puis ce sont les mêmes en 2024 qui disaient de toute façon il est candidat mais il va être battu. Donc ce sont des gens qui se trompent systématiquement, qui font preuve de mauvais esprit. Il faut donc écouter Trump. Il est compréhensible si on prête l'oreille. Il s'est exprimé hier très très longuement. Il défend deux choses. Il défend, tu l'as dit, son pays. On aimerait d'ailleurs que nos dirigeants français défendent aussi leur pays plutôt que de s'occuper du monde entier, des affaires internationales, etc., à fond perdu, qui nous coûte cher, alors qu'on est surendetté. Et il défend d'autre part la stabilité du monde, voire la liberté, voire le camp de la liberté. Il explique, tel qu'hier, les maux des pays européens, qui sont réels, que nul ne peut le nier, les délocalisations, l'immigration incontrôlée, accessoirement, hier, l'escroquerie écologiste, notamment autour des éoliennes, dont lui-même constate qu'ils détruisent les paysages du monde. Ouais. Alors, ok, c'est un showman, ok, mais c'est un businessman, ok, c'est un grand commercial, mais le président Macron, lui, dont tu as parlé, nous embarque dans ses guéguerres et des plans de carrière à caractère plus personnel. Alors, moi, je dis, un peu dans l'esprit de Trump, et en rappelant à propos de mon père, pas de coup d'épingle, le marteau pilon.
Mais je demande au service secret de s'intéresser à Emmanuel Duvillier. Je demande à ce qu'on le mette sur écoute. Ça m'inquiète.
Il est sous influence américaine.
Mais il est sous influence américaine.
On a deux agents de la CIA dans les grandes gueules, Barbara Lefebvre et Emmanuel Duvillier.
On doit les mettre sur écoute.
On va peut-être rajouter Jean-Loup Bonamy.
Mais vraiment.
Mourad.
Alors d'abord, on a un trumpiste. Je vous rappelle que notre camarade en face était fervent supporter de Donald Trump.
Oui, bien sûr.
Quoi vous dire ? Emmanuel, si tu acceptes qu'il y a un maître du monde, parce qu'il nous a expliqué que militairement, il pouvait nous mettre sur la gueule à tous, c'est ton problème. Si tu acceptes qu'il y ait quelqu'un qui décide sur cette planète ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ton problème. Si tu acceptes que quelqu'un dénonce l'immigration, quand on vient d'un pays où on a génocidé les autochtones, on a génocidé les autochtones pour prendre leur place. On se permet de parler d'immigration, je trouve ça un peu fort de café. Si tu acceptes qu'un pays décide quels sont les dictateurs, les dirigeants dans le monde qu'on va aller chercher chez eux et qu'on va mettre en prison, au détriment de tout droit international et de la Convention de Genève, c'est ton problème. Mais je pense que tu es dans l'idolâtrie, malheureusement, dans l'idolâtrie.
Oui, donc il fallait pas faire le 6 juin 44, il fallait laisser les dictateurs en place.
Le 6 juin 44, c'est plutôt les Russes qui l'ont fait.
Il n'y a pas de camp de la liberté, tout le monde est sur le même plan, etc. Tout le monde est sur le même plan.
Sur le front russe, les Allemands.
Tu mélanges la conquête américaine avec les Indiens, avec l'immigration en Europe.
Non, je ne mélange pas. La civilisation américaine aujourd'hui qui existe est née d'un génocide, qui est le génocide des Indiens. Et qu'on nous a fait passer comme un acte de bravoure, je suis désolé, quand on était gamin.
Ça n'a strictement rien à voir avec les problèmes d'immigration en Europe, avec le terrorisme islamique, etc.
Si tu acceptes que ce type qui change d'avis de façon sans arrêt et qui nous fait du chantage et qui est en train de nous expliquer qu'il a droit de vie et de mort sur notre économie. Tu acceptes ça? Moi non. Alors tu te dis patriote? Tu te dis patriote? Mais Roubignol, tu es patriote de rien du tout. Tu es aujourd'hui un pro-américain et tu es prêt à te prostituer face à Donald Trump.
Alors, mesure tes propos, cher Mourad.
Moralement.
Ça grandira ta force de
moralement
conviction.
Parce que pour le reste, t'aurais pas trop de chance. Oui. Donc moralement.
Non, pas d'attaque.
Il aura un certain
c'est un succès avec les cheveux blancs, il a de l'allure.
Oui. Non. Là, tu décris un truc de bande dessinée.
Mais non,
tu décris ta
réalité.
Il faut revenir à la réalité.
T'es endoctriné, il t'a fait du vaudou.
Oui, attends. Non, mais si tu empêches de parler, ça, c'est une chacun de dictateur. Il faut revenir à la réalité du sujet. Il y a une guerre en Ukraine qui est absolument dramatique. Il faut y mettre fin. Qui peut y mettre fin? Que l'administration Trump.
Parce
que
si l'administration,
laisse-moi parler. Si l'administration Trump n'y met pas fin, on va se retrouver, nous, les Français, en première ligne, puisqu'on a un président qui fait le mariole, qui veut diriger, c'est lui qui veut tout diriger, mais avec aucun moyen. Et à ce moment-là, on est proche d'une guerre nucléaire. Ça, c'est autrement plus grave que le problème des Indiens.
Là-dessus, on est d'accord.
Qui ont certes été massacrés et dans une époque tout à fait ancienne.
Alors, le paradoxe, quand même.
On est d'accord, mais c'était pas dans le sujet.
Le paradoxe, puisqu'on.
Si, parce que c'est au cœur, pardon, Olivier, de la situation de Trump avec le Groenland, etc.
En s'opposant
au Groenland comme des petits soldats, alors que ça va se terminer de la même manière puisqu'il y a un accord sous-jacent. Il faut savoir aussi que le cimetière de Colville-sur-Mer est un territoire américain situé en France. Enfin, faut arrêter de jouer les pierres des
parochers.
En s'opposant sur le Groenland, on empêche la paix en Ukraine. Et ça, c'est très grave parce qu'on va se retrouver en première ligne. Les gens qui nous écoutent vont se retrouver en première ligne.
C'est le fantasme américain depuis très longtemps. Il n'y a pas que Trump. À part que lui, pour rentrer dans l'histoire, il s'est dit, moi, je vais le faire. C'est tout. Mais c'est un fantasme américain.
Et la guerre en Ukraine, t'appelles ça un fantasme avec
non,
moi, je vais
non,
le
non,
faire.
Non, là, sur la guerre en Ukraine, on est d'accord. Même pour le reste, le problème de Trump,
Yannick,
c'est qu'aujourd'hui, il est attaqué sur le dollar par la Chine, qui est en train de vendre et de vendre et de vendre tous ses dollars. Et que son économie, contrairement à ce qu'il dit, commence à être défaillante. Et donc Trump, aujourd'hui, a bien compris que la seule façon de gagner ces élections demi-mandat, ben c'est cette attitude.
Non, tu Yannick qui est avec nous. Je te réponds juste en quelques secondes. Tu te trompes, j'espère que tu es sincère, mais tu es dans une optique de polémique. Trump a 80 ans, c'est un
78,
milliard. Laisse-moi parler, c'est un milliardaire depuis 60 ans.
Oui.
Il n'a rien à prouver, il n'a plus rien à se prouver à lui-même. Il a frôlé la mort de quelques millimètres. Alors, il est mégalomane, il est show-off, ok. Mais ce qu'il fait là, il le fait dans une optique d'intérêt général et on a tort de le critiquer systématiquement parce que s'il n'y a pas Trump, on a la guerre en Ukraine et on est aux portes du nucléaire et c'est pas notre président qui va nous solutionner le problème.
Mais là-dessus, on est d'accord. Mais c'est Arthur.
Bon, Yannick, si bonjour Yannick.
32-16. Oui,
bonjour Yannick. Yannick,
bonjour. Alors, moi, quand j'entends M. Devizé, j'ai la haine.
Pourquoi ?
Voilà, j'ai la haine. Parce que Trump n'a jamais été notre ami. Jamais. J'avais appelé quand il avait voulu mettre les doigts, quand il avait menacé de mettre les doigts dedans, j'avais dit que c'était un ennemi. Et Olivier m'avait repris en me disant que c'était pas un ennemi. C'est un ennemi. Il veut dépecer l'Europe. Il en a rien à branler de nous. Rien.
Non, mais alors, Yannick, moi je pense que les Américains ont toujours œuvré pour leurs propres intérêts, qu'ils soient démocrates ou républicains. C'est une erreur de penser. Barack Obama, c'était le même. Pas le même personnage, mais la même politique. C'est-à-dire, ce qui compte avant tout, c'est America First. Même si on va plus loin et on fait un peu d'histoire, moi j'en ai fait, par exemple le plan Marshall, qui est un plan qui a permis de reconstruire l'Europe. Mais c'était aussi au bénéfice des Américains qui disaient, avec une Europe plus riche, on va pouvoir vendre nos produits.
Et en 44, comme le disait Emmanuel, en même temps que nous libérer, nous vendre des Coca-Cola.
Yannick, on n'est pas dans un monde avec les gentils, enfin nos amis, nos ennemis, etc. On est dans un monde de rapport de force. Et là, moi je trouve que Emmanuel Macron a posé le rapport de force, c'est une bonne chose. Après, faut pas se tromper quand même. Les Américains restent nos alliés et plus que la Chine, par exemple. Il ne faudrait pas non plus que par rejet de Trump, on dise aussi n'importe
Yannick.
Quoi.
Alors, je rejette pas les États-Unis. Trump, par contre, sa politique, si. Parce que.
La Chine nous fait plus de mal économiquement que les Américains, par exemple.
La Chine, ils ont compris qu'on voulait pas travailler. C'est pas pareil.
Ils travaillent pas avec les mêmes conditions sociales.
On est d'accord sur ça. Trump, il veut dépecer l'Europe. C'est tout. Et il est d'accord avec Poutine. Et ça tombe bien, les deux.
Mais non, il veut pas dépecer.
Si. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. C'est pas possible.
Et vous faites comment pour la paix en Ukraine sans Trump, cher Yannick? Vous faites comment?
Emmanuel croit que Trump veut faire la paix en Ukraine pour la paix dans le monde. Est-ce qu'il intéresse à Trump? C'est le sous-sol russe.
Sérieux,
c'est la possibilité de monter des joint ventures. La stratégie de Trump, c'est d'avoir fait comprendre à BlackRock qu'il y a plus d'argent à gagner avec la paix qu'avec la guerre.
Bien sûr qu'il y a des affaires en arrière-plan, mais il y a aussi le côté humain à répondre.
Que des affaires.
Attendez. Allez-y.
Ils s'en foutent d'humain, sinon ils feraient pareil. Alors ça c'est clair, net, précis, hein. Ils s'en foutent de l'humain. Et quant à l'Ukraine, moi j'y mets 10 rafales avec l'arme atomique. Et je dis à Poutine, maintenant vas-y, appuie sur le bouton. Voilà.
Très bien. Bah écoutez, fermez les portes de la cuisine parce que quand ça va arriver.
Ouais, non, mais après, en Érythrée, il y a un dictateur. Si Trump veut aller le chercher, oui, mais il n'y a pas de pétrole. Voilà.
Et Thomas veut réagir aussi. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bonjour Thomas. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est finalement Trump, il a réussi une chose. C'est à ce que d'autres montrent un peu les muscles, installent le rapport de force. C'est peut-être finalement ce qui l'a poussé à négocier, à baisser un peu le ton, non, Thomas?
Ah bah non, moi justement, je pense que non. Je pense que, alors c'était très bien que Macron le fasse, monsieur le président Macron le fasse, mais le problème c'est que monsieur Macron n'est jamais à l'auteur de quoi que ce soit. Et si on pense, alors je veux bien qu'on puisse le penser, hein, mais qu'il a une quelconque influence sur Trump, qui, comme disait l'auditeur précédent, qui se fout de tout, qui est au-dessus de tout, qui veut tout diriger, je le conçois, et je suis pas un pro-Trump, hein, je ne l'aime pas, mais non, c'est un peu illusoire, j'entendais ce matin, il se gargarisait, disait oui, c'est la France, monsieur Macron a fait, le président a fait ça, donc il s'est opposé, alors les autres nations ont suivi, mais c'est une blague. Juste une petite chose, j'ai pas aimé tout à l'heure, c'était madame Dagosseri, oui. Excusez-moi, mais se faire traiter de traître parce qu'on soutient pas le président, bah non, je suis pas un traître, j'ai mon pays, je soutiens. Ah, vous avez dit traître, excusez-moi.
Oui, dit, si on soutient pas Macron là, arbitrage vidéo, on va repasser là.
Si on soutient pas là, je parle de cette séquence là, face à Trump, d'accord, je parle pas de. J'ai bien dit que, voilà, j'étais à peine rabi avec lui, donc c'est pour vous dire que. Sur ce dossier-là, je trouve que être pro-Trump alors qu'il est anti-européen, eh ben désolé, excusez-moi, on n'est pas patriote.
Joël, je ne l'aime pas, hein, je ne suis pas de son côté. Je comprends une chose de son point de vue, c'est qu'ils veulent le meilleur pour son pays. Ça, je le conçois, je ne suis pas d'accord
avec ses méthodes. Aussi, je le conçois.
Mais j'aimerais que notre président soit pareil, mais il ne l'est pas.
On peut peut-être aller un peu plus loin.
Notre président, quand il fait ça, dans son arrière-tête, il y a l'idée de se dire je me pose en leader de l'Europe.
Oui, mais c'est pas ça pour la France. Là, je peux rejoindre quand même Thomas, c'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que Emmanuel Macron veut tenir tête à Donald Trump à l'extérieur, dans son propre pays. Le président de la République a lui-même organisé la perte de son pouvoir avec la dissolution. C'est-à-dire que et aujourd'hui, il est obligé d'accepter tout ce qu'il a fait en ce moment est détricoté. On en parle avec Montchalin. Mais la réforme des retraites, on remet des impôts sur les entreprises, alors que la politique de Macron c'était l'inverse. Et donc en fait, il accepte tout en France et en revanche sur la scène internationale, il dit non à Trump.
Très simplement un mot pour Yannick et Thomas qui viennent de nous parler, c'est que je comprends ce qu'ils veulent dire, mais il y a un cas particulier, c'est qu'il y a une guerre en Ukraine qui est à nos portes, on est directement concerné et menacé.
On est d'accord, Emmanuel.
Et donc là, on a besoin d'Amérique. On peut pas jouer les fiers à bras en faisant une hostilité à l'Amérique.
Ça va être intéressant parce que pour le moment, il dit qu'il y a un accord, sauf qu'on ne sait pas du tout ce que c'est que cet accord sur le Groenland. En revanche. C'est comme tu disais, c'est un homme d'affaires qui a toujours fait ses affaires à la hussarde. Donc là, ce qu'il a fait, il a fait la même méthode. Il a dit, je vous promets le pire, je vous promets la guerre, je vous promets des droits de douane à 200%. Et ça, c'est la méthode Trump. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que, un, c'est Mark Rutte qui a négocié avec lui, c'est-à-dire l'OTAN. Peut-être que finalement, d'une base, les Américains vont revenir à 10, 15 ou 20 bases au Groenland, avec derrière peut-être un loyer qui sera profitable au Groenland et au Danemark. Donc il a mené ces négociations comme il fait, en faisant peur à tout le monde. Oui. Alors il baisse d'un ton, et puis finalement, il sortira gagnant de l'affaire
Une précision, c'est qu'il a été très bon parce que Mark Rutte, c'est son double, étant l'excellent OTAN et que c'est les Américains qui payent l'OTAN.
C'est comme ça que ça va se passer.
C'est un peu son employé.
Il appelle Daddy.
Merci.
Donc déjà, tu vois le niveau Mark Rutte appelle Trump Daddy.
Yannick et Thomas d'avoir été avec nous. Alors, est-ce qu'on dit victoire de Macron? Est-ce qu'on dit victoire de Trump dans la négo? Est-ce que le président a gagné son bras de fer? Vous dites non, sûrement pas. À 78%.
La lucidité de nos auditeurs toujours impressionnante.
Dans un instant, le budget. Est-ce que la droite, les Républicains baissent leur froc dans cette histoire de budget puisqu'ils ne voteront pas la censure? C'est au 32. Sais-je que ça se passe, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous, bien évidemment. Mourad Boudjelal, Joël Dagosseri et Emmanuel Duvillier sont nos trois grandes gueules. Aujourd'hui, on va s'intéresser au budget avant d'accueillir tout à l'heure Madame Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics. Elle sera avec nous à 11h. Mais là, on va regarder un peu, vous savez, les motions de censure. On vote la censure, on censure pas. Et alors, quand même, la droite, qui ne vote pas la motion de censure, qui laisse passer le budget, est-ce qu'elle baisse son pantalon? C'est au 32-16 que vous venez de le dire. Et c'est au sein même de, ouais, au sein même de la droite, certains disent c'est incompréhensible, la droite devrait voter la censure du budget. C'est Franck Louvrier, vous savez, qui était le conseiller com de Sarkozy, qui est le maire Les Républicains de La Baule, et c'est lui qui dit son incompréhension face à l'attitude de sa famille politique.
Oui, la droite devrait censurer ce budget, c'est un budget socialiste, qui, c'est une défaite pour les entreprises, c'est ce que dit Franck Louvrier, c'est plus d'impôts, ce sont des dérapages de dépenses de plus de 6 milliards d'euros. Quand on est droite, on peut pas valider ce budget. David Lisnard, le maire de Cannes, dit la même chose. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas députés. Et on voit bien qu'il y a une fracture entre les députés LR et les élus, les autres élus LR. Par exemple, Bruno Retailleau aussi compte ce budget, mais il est sénateur, il risque pas d'être dissous. Les députés LR, ils flippent. Ils ont trouille. Ils ont la trouille parce que la plupart sont dans des circonscriptions gagnables par le RN. S'il y avait une dissolution demain, la plupart pourraient perdre leur siège. Donc, ils avalent leur chapeau. Le premier d'entre eux, c'est Laurent Wauquiez. Alors, Laurent Wauquiez qui jouait les durs lorsqu'il n'était pas député, maintenant, justement, il est conciliant. Il dit, certes, ce n'est pas un bon budget, mais ce n'est pas un budget socialiste. On a quand même obtenu des choses. On a évité la folie de la taxe Zucman. Donc, finalement, il faut la stabilité. Nos électeurs le comprennent, passons à autre chose. Alors, qui a raison dans ce cas-là? Est-ce que la droite n'est pas en train définitivement de se décrédibiliser?
Effectivement, la droite commet une grave erreur, un peu inexplicable, si ce n'est que M. Wauquiez joue les trublions pour déstabiliser Bruno Retailleau à la tête du parti, qui avait eu une primauté de par son poste de ministre de l'Intérieur. Non, c'est gravissime pour le Parti des Républicains que cette situation se soit poursuivi, parce que ça fait déjà longtemps qu'on ne comprend pas l'attitude de faible hostilité à l'égard du gouvernement de la part de tout ce groupe parlementaire.
Sachant quand même qu'il y a beaucoup de LR au gouvernement. Alors, ils ont été exclus, mais enfin, qui viennent d'LR.
Oui,
mais le premier d'entre eux, c'est bien sûr le Cornu, mais Madame Genevard, Madame Dati.
La formule clé, c'est qu'en ne votant pas la censure, ils appliquent le fameux proverbe « qui ne dit mot consent ». Et il est évident que là, c'est une catastrophe. Il devrait voter la censure.
Et faire tomber le gouvernement.
Et faire tomber le gouvernement. Parce qu'il vaut mieux perdre son poste de député maintenant que d'avoir la certitude de le perdre dans un an. Et en plus, c'est même pas ça la vérité. La vérité, c'est que quand on est député, on agit pour l'intérêt de la France. On n'agit pas pour son poste. Eh oui.
Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on a une classe politique qui s'est paupérisée, que nos élites, enfin, qui devraient être nos élites. Normalement, quand on est député, on n'a pas peur. On n'a pas peur de retrouver la vie à l'extérieur, parce qu'on fait partie du gratin. Et là, malheureusement, c'est ce que je dis depuis des années dans les grandes gueules. On a une classe politique dont la principale qualité a été d'être consensuelle dans leur parti, et dans l'hypothèse où c'est une qualité. Et là, je reste poli, et qui aujourd'hui fait dans son froc, parce qu'ils sont pas sûrs de manger demain s'il y a une dissolution. Donc, comme le dit très justement Emmanuel, aujourd'hui, leur intérêt privé, leur beefsteak, passe avant un intérêt national. Et ça doit nous interpeller aujourd'hui sur le pourquoi on est dans la merde. Pourquoi ce pays va mal? C'est parce que l'intérêt collectif, l'intérêt national, n'existe plus dans la classe politique. Aujourd'hui, être élu, ça signifie avoir un beefsteak, manger, avoir des avantages. Mais ça signifie plus, je vais essayer d'améliorer la vie des gens, des Français, ce qui devrait être l'essence même d'un mandat. C'est plus le cas. On a une assemblée nationale qui est une assemblée de faux culs, quoi.
Joël?
Non, mais tu l'as bien dit. Moi, j'ai regardé chez les Républicains ceux qui demandaient à ce que on refuse de voter ce budget. C'était des personnes qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, David Lisnard en fait partie. Il a même demandé la démission du président de la République, ce avec quoi je suis d'accord. Donc, moi, je considère que ces gens-là sont des assistés.
De la République.
Ce sont des assistés de la République, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit de leurs 10 doigts. Et ils sont payés par les impôts, par les Français, pour ne rien faire. Et quand je dis ne rien faire, c'est pourquoi ? Parce que leur boulot en tant que républicain, c'est de soutenir des lois qui vont en fonction de leurs convictions. Voilà, donc si tu peux pas faire ça, tu ne fais rien, tu ne sers à rien et tu es payé avec nos impôts. Donc moi j'attends vraiment de dégager tout ça. Je peux te dire que s'ils pensent garder leur poste, c'est très précaire. Il faut savoir, hein, ils sont en pleine précarité parce qu'aux prochaines élections, je peux te dire que tout ça, ça va rentrer dégager, à la maison.
Et il ferait mieux, goudron, voilà, et
il ferait mieux, il ferait mieux de préparer les CV parce qu'il va falloir aller chercher du boulot.
Ils mettent en avant en disant si on va vers une dissolution, c'est de nouveau du temps perdu.
Non, attends.
C'est une France sans budget. Il vaut mieux mauvais budget que pas du budget bien du sûr. Tout. La passant à autre chose. De toute manière, s'il y a une dissolution, il n'y a pas forcément de majorité qui dégage. Non, en tout cas, de
Olivier,
droite.
Olivier, voilà, tu as ces arguments-là. Non, mais tu as raison. Ça, c'était l'argument de fond, de base, de sagesse, d'équilibre national. Mais là, le problème, c'est qu'on est allé au-delà. C'est-à-dire que le Cornu a pactisé avec les socialistes.
Oui. Ils ont été mauvais dans le deal, du coup.
Il a laissé passer des choses, une démagogie. Qui est absolument inadmissible et l'attitude des républicains, ils peuvent mettre maintenant pompe funèbre générale.
Emmanuel, tu te rends compte que les socialistes qui représentent 1,5%, quand tu fais 1,5% dans ce pays, tu fermes ta gueule, tu n'imposes pas de loi, tu ne dis rien, tu représentes que dalle. Olivier Faure représente que dalle. Quand je vois Olivier Faure, j'ai la notion du vide. Je comprends ce que ça veut dire que le mot vide, c'est vide. Il ne représente rien et il nous impose des lois socialistes qui sont suicidaires dans le budget de Le Cornu avec 1,5%.
Mais non.
C'est pas des socialistes bontins, ce sont devenus des extrémistes.
Oui, bon, là vous
et accessoirement des traites.
Non, mais vous êtes dans les insultes.
Non, on n'est pas dans les insultes, on est dans la réalité.
Pardon. Déjà, c'est pas la présidentielle, ce sont législatives. C'est-à-dire que
ils ont été élus sur un programme.
Donc électoralement, ils ont un groupe.
LFI, ça leur allait bien pour être élu. Hein. Ça leur allait bien, LFI, pour être élu.
Ils ont un groupe.
Et le programme commun, ça leur allait bien pour être élu. Mais maintenant, ils connaissent plus. Ça s'appelle des traîtres.
Ils ont un groupe qui est plus important que le groupe LR. Le groupe socialiste. Non, ce qui est amusant, c'est que les socialistes ne sont pas au gouvernement et ils obtiennent plus que les LR qui dont une partie des responsables est dans le gouvernement. C'est là c'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème de négociation. Attends. C'est-à-dire que, pardon, mais Laurent Wauquiez, il a fait, à mon avis, une erreur fatale dans la négociation. Il a commencé par dire au tout début, il y a 3 mois, on ne censurera pas. Bah donc forcément, le Cornu a dit bon, ben c'est bon. Oui. Je me tourne vers Olivier Faure.
Il faudrait qu'il fasse l'école Trump un peu.
Du coup, là, dans le deal, il est pas bon. C'est-à-dire qu'il dit dès le début, non mais rassurez-vous, on censurera pas. Donc forcément, le Cornu, il avait plus besoin de donner satisfaction à la droite. Il s'est tourné vers Olivier Faure. Ouais. Alors quand on a réussi à ne pas obtenir la taxe Zucman, mais la taxe Zucman, de toute façon, elle serait pas passée, elle est pas constitutionnelle. Enfin, il y avait plein de raisons de la débouter. Donc c'est pas suffisant à mettre en avant comme victoire.
Alors, le bon français. Dépité, et il peut prendre son café chez lui en s'asseyant dans son siège de canapé et grommeler « Ah, elle est belle, la France !»
Mais non seulement ils n'ont rien obtenu, mais en plus, on leur a enlevé le peu de trucs. La retraite a été complètement suspendue. Et la deuxième chose, j'ai écouté M. Wauquiez qui nous explique qu'il ne serait pas bon dans cette situation internationale de censurer, machin, etc. Donc leur truc, c'est en gros la stabilité. Mais moi, là, dans la vraie vie, qui se sent stable ? Quand tu as des entrepreneurs qui te disent que je ne vois pas à 2 mois ou 3 mois, tu crois qu'ils la ressentent, cette fameuse stabilité qu'ils nous vendent ? Quand tu as des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi,
budget, ce serait pire,
de l'école, il n'y a pas de stabilité.
C'est la stabilité avec moi.
Hein. Ils ont le chômage en plus. Attention, ils s'en mettent plein les poches avec le chômage.
La seule stabilité, les seules personnes qui connaissent la stabilité aujourd'hui, ce sont des gens qui sont assis dans des sièges rouges à l'Assemblée. Eux, ils ont une stabilité. Moi, les autres, nous, on n'a pas de stabilité. En tant qu'entrepreneur, il n'y a pas de stabilité. En tant que demandeur d'emploi, il n'y a pas de stabilité. Donc, il faut arrêter de nous parler de stabilité quand les gens se sentent instables dans leur vie.
Et je vous rappelle que ça avait été dit, hein, clairement, que la seule majorité absolue qui existait à l'Assemblée nationale, c'était contre la dissolution, justement.
Oui, c'est ça.
C'était
la
seule chose sur laquelle
préserver le bifteck.
Ils s'étaient tous mis d'accord. Florian, viticulteur du côté de la
Marmont. Ils ont monté une association, d'ailleurs, de préservation du bifteck.
Bonjour, Florian.
Bonjour, les GG.
Plutôt électeur de droite.
Ouais, plutôt sympathisant de droite, mais en ce moment, je m'y retrouve pas du tout.
Pourquoi?
Hey, il a raison.
Pourquoi, Florian?
Un Premier ministre qui est censé être de droite, qui nous vote un budget socialiste, enfin en tout cas, qui va nous imposer un budget socialiste, on est à 5% de déficit en prévision
Non, on n'y sera pas.
C'est une prévision.
Oui, on est toujours au-dessus des prévisions.
Oui, allez-y.
Donc,
c'est Bruno Le Maire qui l'a fait, la prévision.
Ça en a coûté des milliards et on n'a même pas une réforme structurelle sur les retraites. Une dose de. Enfin, moi, je serais même pour une capitalisation totale.
Oui.
On n'a rien. C'est 57% du PIB en dépenses publiques.
Mais donc vous auriez préféré que la droite soit fidèle à ses valeurs, économiques notamment, et qu'elle dise non, on ne veut pas de ce budget, qu'elle vote la censure avec la France Insoumise, le Rassemblement National.
Bien sûr, mais le problème c'est que moi je considère qu'il n'y a plus de droite en France. De mon point de vue économique, il n'y a plus de droite en France.
Mais Florian, la droite, je suis désolé, si je regarde les 30 dernières années, parce qu'elle est au pouvoir la droite, hein, alors ça fait un moment qu'elle n'y est plus, c'est depuis le départ de Nicolas Sarkozy en 2012, mais enfin elle était au pouvoir avec Sarkozy,
enfin, Macron,
elle
était au pouvoir avec Chirac,
elle a été au pouvoir avec Balladur, pardon. Mais la droite, quand elle est au pouvoir, elle est dépensière. Moi, je veux bien qu'on dise la gauche dépense sans compter. Mais la droite, quand elle est au pouvoir, elle dépense aussi sans compter. On a une classe politique qui est abreuvée à la dépense publique, qui c'est le chèque est sans provision et
boulimique.
Tant qu'on nous tape pas sur les doigts, eh bien, on peut continuer. Mais la droite, Florian, elle n'a pas démontré de la vertu en la matière. Hein.
Mais Florian,
c'est de la dépense électorale aussi souvent.
D'accord, mais du coup, vous qui êtes plutôt électeur de droite, Florian, lorsque viendra de nouveau le temps des élections, puisque ce sera quelle droite que vous choisirez, Florian ?
Ça, c'est l'hypothèse optimiste de la vie.
J'en sais rien du tout, je suis complètement paumé.
Vous êtes orphelin.
Carrément. On parle de David Lisnard, pourquoi pas ? Je sais pas trop ce qui. On en parle comme un libéral, ce qui est plutôt ma tendance, mais. Là, honnêtement, je sais pas. J'ai pas vu le programme de David Lisnard ni quoi que ce soit. Donc là, je suis paumé.
Et un Édouard Philippe, non ?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se refuse à expertiser notre système, qui est obsolète. Parce que d'ailleurs, personne ne le copie dans le monde.
Madame Montchalin tout à l'heure.
Il
n'y manquera pas.
À force de pas vouloir faire cette expertise, on va bientôt faire une autopsie à la place. C'est ce qui va se passer, vous verrez.
Merci Florian d'avoir été dans les GG, dans les Grandioles. À bientôt Florian pour de nouvelles discussions. Est-ce que selon vous la droite baisse son pantalon dans cette histoire de budget de non-censure? Oui, 94% quasiment.
Accablant.
Oui, c'est très rare. Eh bien tiens, justement, puisqu'on parle travail, puisqu'on parle argent, vous avez vu que justement, c'est tout le paradoxe, parce que ce sont les députés qui examinent une proposition de loi qui vient de la droite pour faire travailler le 1er mai. Donc c'est là où c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on accepte un budget de gauche mais on veut faire travailler le 1er mai. Bref, ouvrir les commerces le 1er mai au nom du travail et de la liberté de bosser, qu'est-ce que vous en dites? C'est au 32-16 que ça se passe, il est au 11h-20, vous êtes avec les Grandes Gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG sont avec vous de 9h à midi tous les jours. Si vous ratez les Grandes Gueules, vous avez les podcasts à votre disposition. Ça, c'est sur l'appli RMC. C'est sur notre site internet rmc.fr et vous rattrapez l'émission et vous avez les petites conversations aussi inédites durant la pause pub et qu'on met en ligne sur les podcasts. Emmanuel Devilliers, Joël Dagosséry, Mourad Boudjelal. Avec vous, je vous propose qu'on parle de travailler le 1er mai.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Henri Salvador, si vous voulez la retrouver. Alors en fait, c'est un texte qui est débattu aujourd'hui. Texte dont l'ambition est de permettre en fait aux salariés, enfin certains salariés, de travailler tranquillement, librement, comme ils le veulent le 1er mai.
Ça concerne les fleuristes, les établissements culturels, cinéma, théâtre, les commerces de bouche de proximité, comme les boulangeries, pâtisseries, primeurs, bouchers, etc. En revanche, ça exclut la grande distribution. Les salariés travaillant le 1er mai seront rémunérés le double de leur salaire habituel. C'est une disposition du texte. Alors là, c'est une disposition du texte qui
qui crée un peu la polémique parce que c'est sur la base du volontariat. Et là, il y en a certains qui disent que dans la vraie vie, c'est pas possible, ça ne marchera pas comme ça. Et notamment le groupement des hôtelleries et restaurations de France qui disent que si on part sur le volontariat, bah, il va manquer toujours un salarié. Et s'il manque un salarié, on peut pas bosser. Le volontariat conduira mécaniquement à la fermeture de ces établissements. Donc certains voudraient que ça aille plus loin. Mais est-ce que c'est une bonne chose de laisser la liberté? D'autres disent bah non, parce que finalement maintenant on est autorisé de travailler le dimanche, le 1er mai, tous ces jours se banalisent et c'est le travailleur qui trinque. Oui.
Alors moi je me permets d'intervenir parce que j'ai une fille qui est fleuriste et donc qui est directement concernée, sachant que le sujet était sur la table, elle m'a adressé un petit mot hier.
Dit-elle.
En tant que salarié, c'est un moment essentiel de notre année. Le muguet, on ne l'a qu'une fois dans l'année. C'est là qu'on vend le plus de bonheur. C'est une tradition, un petit budget, un beau moment avec notre clientèle. Scandaleux que tout le monde soit autorisé à vendre dans la rue, mais que les fleuristes, eux, n'aient pas le droit. C'est un métier, notre métier de passion. On sait qu'on doit travailler les jours fériés et c'est ainsi. On l'a choisi, on est volontaire. En plus, on est payé double, donc pas de raison de vouloir rester chez soi. La loi va clarifier et autoriser un truc normal. Et j'en termine. Permettre aux fleuristes d'exercer leur métier au moment où la demande est présente.
Qu'est-ce que tu en dis, Joël ? Faut laisser tout le monde bosser le 1er mai ?
Alors, déjà, la première chose, c'est que quand même, on sort d'une situation, ou en tout cas, on va sortir d'une situation. Ou si tu avais eu le malheur d'ouvrir ta petite boulangerie avec ton salarié, tu devenais un délinquant.
Oui.
Donc, faut quand même comprendre que, voilà, en France, quand tu veux travailler, tout d'un coup, tu tombes dans la délinquance. Tu es un hors-la-loi. Donc, c'est bien que ce texte puisse venir un peu rectifier cela. Maintenant, quand je dis tout le monde au travail, non, moi, je le 1er mai, je veux pas que ça devienne un jour banalisé. Non, c'est peut-être un moment en famille, etc. Mais il faut savoir qu'il y a toute une partie de la population pour qui le mois de mai, c'est les vacances, et pour les autres, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Moi, quand j'étais étudiante, le mois de mai, pour moi, c'était pas synonyme de pont, de vacances, c'était synonyme de
travail.
Beaucoup d'argent.
Oui.
Je me disais, je vais me faire le double. En plus, je travaillais au McDo, je me rappelle, ils payaient même le triple le 1er mai. Donc, je vais me faire le triple au 1er mai, le double au 8 mai, etc. Et donc, t'imagines si on vient te dire, ah bah non, tu ouvres pas et tout. Mais il y a plein de gens pour qui, le 1er mai, c'est open, quoi. Ils ont envie, ils ont pas envie de rester en famille. Soit ils n'ont pas de famille, soit ils sont très jeunes, ils ont besoin d'argent. Donc, c'est bien qu'on puisse répondre aussi à cette demande. Et c'est bien que la loi puisse venir encadrer. Et surtout, arrêter de traiter les artisans comme des hors-la-loi.
Mourad.
Pour moi, déjà, le jour de la fête du travail, pour le fêter, on devrait travailler, quoi. C'est la même façon de fêter le travail.
C'est paradoxe. Voilà. C'est le jour où on a hâte de travailler.
Mais ensuite, je pense que le jour de la fête du travail, comme il y a une grande partie de la population qui ne travaille pas, c'est donc, ça doit être considéré comme un jour de grande consommation potentielle. Et on doit l'utiliser comme ça pour certains commerces, comme le commerce de la fille d'Emmanuel, ce que je comprends tout à fait. Il faut utiliser cette journée pour que ceux qui ont du temps de consommation puissent consommer pour ceux qui ont besoin, qu'on consomme chez eux. C'est de l'économie, c'est basique. Je veux dire, soit on fait de l'idéologie, soit on fait de l'économie dans ce pays. Mais à un moment donné, il va falloir décider.
Surtout que c'est, voilà. Il y a plein de gens qui travaillent le 1er mai depuis toujours.
Et puis, il y a plein de gens qui travaillent le 1er mai sans payer d'impôts, je peux te dire. Parce qu'ils vendent du muguet sur le bord des routes.
Les policiers, les hôpitaux ne ferment pas le 1er mai. Les pompiers travaillent le 1er mai.
Et puis, c'est triste, le 1er mai, tout est fermé. T'as même pas de journaux, tu bois.
Alors,
les gens qui travaillent le 1er mai, pour oublier qu'on est le 1er mai. Ah non.
On est dans l'idéologie, c'est un combat idéologique.
Oui, parce que les organisations syndicales disent, s'il vous plaît, préservez cet acquis social, préservez ce 1er mai, parce que si vous le remettez en cause, derrière, ça s'enchaînera. C'est-à-dire que derrière, on rognera d'autres jours fériés pour arriver à
une société. Ceux qui ne sont pas syndiqués, ils n'ont rien à foutre de ce que disent les organisations syndicales.
On n'est pas en manque et en carence d'acquis sociaux en France. Ouais. Par contre, on est en manque de travail, on est en manque d'argent. Donc, s'il te plaît, à un moment, les syndicats, ils sont gentils. Oui. Mais même les salariés qu'ils veulent autant protéger, ces salariés-là aimeraient bien, certains, avoir plus d'argent. Donc, il faut aussi y penser. Parce que tout le monde n'a pas envie de se reposer, de faire dodo. Il y a des gens qui ont envie de payer leur loyer.
Et il faut qu'on ait des syndicats plus modernes dans leur tête.
On pourrait supprimer les fêtes chrétiennes. Excuse-moi, ça, on parle de jours fériés. Bah, dans ces cas-là, puisque tu enlèves le 1er mai.
Il existe toujours, mais il y a des jours de grande consommation pour beaucoup de commerces.
Je dis simplement, parce qu'on est en train de regarder les jours fériés, qu'on parle du 1er mai. Il y en a d'autres.
Mais le jour de Noël, c'est ouvert. Les commerces sont ouverts le jour de Noël.
Il y a d'autres jours fériés qu'on pourrait renier pour faire ensemble, pour faire en sorte qu'on ait plus de productivité, qu'on travaille plus.
Il est beaucoup plus rigide que le reste des jours fériés.
Bien sûr.
Donc, c'est mettre un peu de souplesse.
Les jours fériés, c'est des jours de productivité parce que c'est des jours où on a du temps de consommation. C'est important pour certains commerces.
Mais d'ailleurs,
l'hôtellerie, le tourisme, les restaurants, d'accord, mais en attendant, par exemple, les jours fériés, tu as les administrations qui sont fermées. C'est toi ou des jours où tu es potentiellement disponible, l'administration ne l'est pas.
Les
jours fériés chrétiens.
Objection, votre honneur.
On pourra enlever les fêtes chrétiennes.
Tous les jours fériés ont un sens profond et central dans notre histoire. On peut pas les remettre en cause.
Le 1er mai en étant.
Et si on arrive à prouver que Dieu n'existe pas, faudra tout rembourser.
Non, parce que il y a aucun pays où il y a pas de jour férié.
Je dis pas ça. On regarde ce qui se passe le 1er mai.
Sauf que le 1er mai c'était très verrouillé, comme le dit Joël, c'était plus compliqué de travailler le 1er mai. Là, ça le sera moins. Les autres jours fériés, tu peux travailler. D'ailleurs, sont souvent.
Je vais te mettre en contact avec un prêtre pour que tu puisses te confesser de cette vue.
Il y a un exorcisme à exercer à mon encontre, c'est ce qu'est en train de dire faites sortir le malin de ce corps.
Le problème, c'est qu'on a trop de jours fériés le mois de mai. Mais en fait, ils sont trop concentrés. Ouais. Ce qui fait que tombe un jeudi, par exemple, ou un vendredi, si tu déposes quelques jours, tout d'un coup,
on est le pays d'Europe qui compte.
Exception culturelle.
On est le pays d'Europe qui compte le plus de jours fériés.
Alors, moi, je m'interroge plus sur la dénomination de la ministre qui va nous rejoindre. Ministre des Comptes Publics, très bien. Pourquoi ministre de l'Action et des Comptes Publics?
Parce qu'elle est dans le mouvement, elle est dans l'action, mon cher.
Elle est en marche.
Et c'est bien de le...
Parce que les autres ne le sont pas, alors
quand le président Chirac a été réélu en 2002, c'était vraiment un truc de publicitaire. C'était le temps de l'action est venu, c'était ça son slogan. Alors tous les politiciens
dans Paris, rien passé.
Les politiciens dans Paris euphoriques de retrouver des postes, ils essayent, c'est le temps de l'action, on est dans le temps de l'action.
Et il s'est rien passé au deuxième quinquennat de Chirac, ça.
Voilà,
deuxième mandat.
Justement, à propos de ces jours fériés, la question est de voir le paradoxe politique, encore une fois, de la formation qu'il demande, c'est-à-dire de la droite qui se veut dans ces cas-là très libérale, mais qui finalement adoube un budget qui lui ne l'est pas du tout, quoi. Un budget socialiste. Donc là, c'est Laurent Wauquiez. Ça vient aussi du parti de Laurent Wauquiez. Ça vient du Sénat. C'est ça qui est assez amusant et on se retrouve encore dans une schizophrénie politique, quoi, là, aujourd'hui.
Et il paraît que c'est sur ce sujet qu'il paraît que c'est Mourad Boudjelal va passer le 6,50 m, on saute à la perche.
C'est Jean-Michel qui est pâtissier du côté du Val-de-Marne. Il a son petit mot à dire. Désolé, bonjour, Jean-Michel.
On peut pas toujours gagner.
Qu'en dites-vous, Jean-Michel, alors?
Ah bah moi je dis simplement que moi j'aimerais bien ne pas travailler les jours fériés et je suis pâtissier.
Pourquoi, dites-moi?
Et on vous oblige?
On m'oblige de travailler les jours fériés.
Normalement sur la base du volontariat, le 1er mai.
Non, pas sur la base du volontariat.
Mais vous êtes payé double?
Oui, on est payé double si on veut. Pas complètement double.
Mais c'est si important que pour vous de ne pas travailler le 1er mai?
Oui, parce que j'en ai pas l'utilité. C'est pas les 40, 50 euros qui vont m'aider à vivre à la fin du mois.
T'es ouvert que le matin, souvent, le 1er mai.
Nous, on est ouvert toute la journée.
Toute la journée. Et quand vous dites ça, votre patron, il dit quoi?
Mon patron ne dit rien. Lui, pour lui, les 1er mai doivent être ouverts, point final. Ouais. J'ai fait plusieurs patrons, et ça a toujours été, jusque maintenant, ça a toujours été comme ça.
Oui, mais c'est le problème. On a eu ce souci dans
le repos plus important que l'argent.
On a eu ce souci dans le rugby avec le syndicat des joueurs qui était de mettre des matchs à Noël. Et on a classé, puisqu'on s'est rendu compte qu'à Noël, il y avait une forte demande, que les stades étaient pleins. Donc, est-ce que quand les gens sont en demande et ont le temps de consommer,
est-ce qu'il y a plus de clients
présents,
Jean-Michel, est-ce qu'il y a plus de clients le 1er mai?
Oui, c'est sûr que
c'est là. Et oui, voilà.
Merci d'avoir été avec nous, Jean-Michel. Il est 11h05. Dans un instant, Madame Amélie Montchalin, la ministre de l'Action et des Comptes Publics, avec nous. On parlera budget, donc, avec Emmanuel Devilliers, Joël Dagosséry et avec Mourad Boudjelal. Et ensuite, à midi moins 20, 20% des Français ne portent pas la ceinture de sécurité à l'arrière. Inconscience.
RMC, 9h, midi.
Les grandes gueules.